Donc, l'abandon entre passivité et activité. En effet, l'attitude du disciple, du Christ, c'est de suivre Jésus comme maître dans la voie de l'obéissance. Alors on peut se demander quelle est la part de notre volonté. Est-ce que notre volonté est passive ou active face à la volonté de Dieu? Est-ce que je dois tout simplement me laisser faire, me laisser porter par les événements? Ou bien est-ce que néanmoins je dois quand même diriger ma vie? Je voudrais que nous nous aidions pour la méditation d'aujourd'hui de ce texte de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, versets 5 à 11. Ça va guider un petit peu la méditation. Et vous pourrez revenir dessus chez vous. Saint Paul est confronté à Corinthe par des divisions entre les différents chrétiens. Et il y en a qui se réclament d'Apollos, d'autres qui se réclament de Pierre, d'autres qui se réclament de Paul, etc. etc. Et en fait, saint Paul va revenir là-dessus et va dire ceci. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par qui vous avez embrassé la foi, et chacun d'eux, pour la part que le Seigneur lui a donnée, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Or, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Mais chacun recevra son propre salaire à la mesure de son propre labeur. Car nous sommes les coopérateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, tel un bon architecte, j'ai posé le fondement. Un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il y bâtit. De fondement, en effet, nul n'en peut poser d'autre que celui qui s'y trouve, à savoir Jésus-Christ. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 11. Que dit saint Paul? Saint Paul utilise une expression qui a été reprise d'ailleurs en partie par Benoît XVI dans sa devise « Nous sommes les coopérateurs de Dieu ». Benoît XVI dit « coopérateurs de la vérité », mais la vérité c'est le Christ. Nous sommes les coopérateurs de Dieu. C'est-à-dire que, bien sûr, dans l'ordre de l'évangélisation, ici, Paul parle de l'évangélisation de l'église de la ville de Corinthe, l'établissement de l'église comme le bâtiment du Christ, si vous voulez, l'édifice de Dieu. Paul, Apollos, Képhas, tous ces apôtres ont eu une part active. Mais néanmoins, c'est Dieu qui donne la croissance, c'est Jésus-Christ qui est au fondement de l'édifice. C'est lui qui, d'une certaine manière, fait tout. Donc vous voyez, il y a bien, d'une certaine manière, dans la coopération de l'homme au dessein de Dieu, à la volonté de Dieu, une part active de notre volonté, une part personnelle dans laquelle nous nous engageons, et en même temps, il y a l'action même de Dieu. Mais il faut, de toute façon, bien se situer. Paul ne parle pas ici d'un projet personnel. Il ne parle pas de ses vacances à Corinthe. Il ne parle pas de tel ou tel projet pour lui-même, professionnel ou autre. Non. Son projet, ce qu'il veut, lui, au point de départ, c'est ce que Dieu veut, c'est-à-dire le salut de tout homme, et en particulier de ces hommes qui sont à Corinthe, qui ont besoin de connaître l'évangile du Christ. Nos actions, toutes les actions de notre vie, les plus quotidiennes et les plus insignifiantes comme celles qui nous impliquent le plus, sont à voir dans la lumière, sont à vivre dans la lumière de ce que Dieu veut pour nous et pour notre famille, pour notre communauté, la communauté à laquelle nous appartenons, pour l'ensemble de notre vie sociale, etc. Donc ça, c'est vraiment, c'est le plus important, je crois, c'est vraiment cela, c'est pour ça que je m'y arrête et que j'insiste. Nous ne pouvons parler de l'abandon à la volonté de Dieu que si nous parlons de la volonté de Dieu. Est-ce que nous voulons, est-ce que nous voulons ce que Dieu veut ? Ce sera toujours... Si d'une certaine manière, si chacun de nous arrive à répondre à cette question, est-ce que je veux vraiment ce que Dieu veut ? Ce qui est en fait la grande question de toutes les retraites que l'on peut faire, de Solesmes à l'Hérens, de la mer à la montagne, dans quelques lieux de retraite que vous aimiez, que vous préfériez ou autre, la grande question c'est est-ce que je veux ce que Dieu veut ? Est-ce que je fais ce que Dieu veut ? Est-ce que je ne fais pas ma volonté propre quelquefois ? C'est à cette lumière qu'on ne peut parler que de l'abandon. Sinon, on réduit l'abandon, comme je vous le disais la dernière fois, à une attitude un peu psychologisante, un peu rassurante pour notre affectivité un peu tourmentée. Mais en fait, cet abandon revient souvent à un lâcher prise dans les circonstances dans lesquelles nous vivons. Je ne maîtrise pas les circonstances, donc je m'abandonne aux circonstances. Mais c'est pas ça, l'abandon comme attitude spirituelle, c'est pas ça du tout. Et déjà là, il y a une distinction radicale qu'il faut faire. Ne psychologisons pas le discours théologique. Nous savons que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a approfondi la voie de l'enfance spirituelle quand elle secondait Mère Marie de Gonzague auprès des novices. C'est dans le manuscrit C de l'autobiographie de l'histoire d'une âme que nous en apprenons beaucoup sur la voie de l'abandon et la voie de l'enfance. Mais d'une certaine manière, Sainte Thérèse était très prudente. Elle conseillait de ne pas parler de cette voie de l'abandon au risque d'être comprise à ce moment-là comme une sorte de quiétisme ou d'illuminisme. Le quiétisme de Molina, c'est 18e siècle, consiste à justement rester complètement passif devant Dieu au point de ne plus rien avoir à faire, si vous voulez. De ne plus s'engager du tout dans la propre voie de son salut. Le quiétisme. Et il y a effectivement un danger de prendre la doctrine de l'abandon spirituel pour une non-action, voyez, sous prétexte que Dieu fait tout. Voilà. Et comme nous allons le voir, justement, la doctrine spirituelle de l'abandon à la volonté de Dieu ne supprime pas l'engagement de notre propre volonté. Que signifie le mot d'abandon ? On va commencer par ça, la définition théologique. Il faut d'abord bien saisir ce qu'il n'est pas, ce que ce ne signifie pas l'abandon. Je vais vous lire, vous ne l'avez pas sous les yeux, peut-être que je vous le photocopierai pour la prochaine fois, un texte important de Monseigneur Charles Guay. Alors, Monseigneur Charles Guay, c'est un grand maître de spiritualité, 1815-1892. Donc, il a traversé tout le 19e siècle. Hein, c'est un peu l'époque encore du curé d'Ars, et puis ensuite la fin de Napoléon, etc., etc. Et puis ensuite tout le 19e siècle en France, qui est très marqué au point de vue ecclésial. C'est une figure exemplaire, en fait, du retour à l'Église catholique des grandes familles bourgeoises après la Révolution française. Charles Guay sera évêque auxiliaire de Poitiers auprès du cardinal Pie, et il sera très lié au XIXe siècle, au renouveau de la vie consacrée du XIXe siècle. Voilà. Comme quoi, le renouveau n'est pas nouveau. Alors, le renouveau, c'est sans cesse dans l'Église. Et voilà ce que dit Charles Guay pour montrer que ce que n'est pas l'attitude de l'abandon. Nous parlons d'abandon, dit Charles Guay, nous ne parlons plus d'obéissance. Donc l'abandon n'est pas l'obéissance. L'obéissance, dit-il, se rattache à la vertu cardinale de justice, tandis que l'abandon se relie à la vertu théologale de charité. Voilà une distinction importante. Vous voyez pourquoi ? Parce que l'obéissance, par exemple, un exemple très manifeste, un religieux, une religieuse est tenu d'obéir par les vœux qu'il a faits à la règle qu'il a choisi de suivre, bénédictine, règle pour les trappistes, règle de saint Augustin, etc. Ses vœux l'engagent à suivre cette règle. Et c'est en obéissant à la règle qu'il entre dans la perfection de la vie religieuse. Et d'une certaine façon, ça en général les religieux le savent, comme les prêtres et autres, l'obéissance est le lieu véritable de la sanctification religieuse. Celui qui obéit sait qu'il ne se trompe pas, même quand il obéit à un ordre dont il a le sentiment que cet ordre ne va pas dans la direction où il pense. Il y a plus de sainteté pour le subordonné à obéir à son supérieur. C'est là qu'il trouve sa sainteté. Un jour, un jeune se posait la question de la vocation. On lui indique une personne qui avait vraiment un charisme pour le discernement. Et cet homme avait déjà fait quelques années de séminaire, il était sorti du séminaire et il ne savait pas, il avait repris des études et il ne savait pas s'il allait rentrer à nouveau au séminaire. Et donc il va voir une personne qu'on lui indique, qui peut lui conseiller. Et donc il fait part de ses tourments, de ses questions, de ses soucis. La personne l'écoute attentivement et puis... au moment de la discussion, elle lui pose une seule question, et cette question sera très très juste. Elle dit, écoutez, est-ce que vous vous sentez capable, est-ce que vous vous voyez, pour les années à venir, est-ce que vous vous sentez capable d'obéir à votre évêque, quoi qu'il vous dise? Alors là, il a réfléchi, il a dit, je crois que c'est pas pour moi. Et donc là, le discernement de la vocation a été fait. Pourquoi ? Parce que la question a été juste, si vous voulez. La question, elle est au cœur de ce qu'est la vocation religieuse, la vocation ecclésiale. On ne peut pas, bien sûr, on peut avoir des tas de désirs, etc. On peut avoir des tas de désirs spirituels. Et on peut avoir des tas d'affection pour telle ou telle famille religieuse ou tel ordre religieux, ce qui fait qu'on fréquente cet ordre, on fréquente cette communauté, on fréquente, etc. On se demande si on n'y serait pas mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur, etc. Et il y a un moment donné où, dans le discernement, en posant la question juste, on touche à ce que l'on désire vraiment et la réponse à ce désir, la réponse à une question sur les circonstances importantes fait que le discernement s'opère. Donc, l'obéissance, je reviens à l'obéissance. L'obéissance est effectivement la vertu par laquelle on accomplit aussi, dans toute vie chrétienne, pas simplement dans la vie religieuse, on accomplit les commandements divins, les commandements de Dieu. La volonté signifiée, ce qu'on appelait la dernière fois la volonté signifiée, la volonté explicite de Dieu. Donc, c'est pas là que se trouve l'abandon. L'abandon, dit Charles Guay, se rattache à la vertu théologale de charité. Donc, l'abandon est un acte d'amour. De cet amour qu'on appelle charité, hein, et je rappelle ici le sens très théologique de la charité. La charité, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain par amour pour Dieu. Donc, l'abandon, c'est cet acte d'amour de Dieu qui fait que le reconnaissant dans les circonstances de notre vie, nous cherchons à se conformer à sa volonté. Reconnaissant la volonté de Dieu dans les circonstances de notre vie, nous nous conformons à cette volonté. Je vais revenir sur cette définition, je la redirai un petit peu plus tard. Charles Guay continue en disant « Nous ne disons pas non plus résignation. Quoique la résignation regarde naturellement la volonté divine et ne la regarde que pour y céder. Mais elle ne livre, pour ainsi dire, à Dieu qu'une volonté vaincue, une volonté par conséquent qui ne s'est pas rendue tout d'abord et qui ne cède qu'en se surmontant. » L'abandon n'est pas la résignation, parce que dans la résignation, si vous voulez, il y a un aspect « bon, ben, je ne peux pas faire autrement, donc je m'abandonne, je suis obligé de m'abandonner ». Il n'y a rien de positif dans la résignation qui puisse dire quelque chose de l'abandon. Donc, l'abandon n'est pas la résignation. L'abandon va beaucoup plus loin. Autre terme, le terme d'acceptation n'en serait pas non plus le mot propre. S'abandonner, ça n'est pas simplement accepter. C'est intéressant, ça. La volonté de l'homme acceptant celle de Dieu semble ne se subordonner à lui qu'après avoir bien constaté ses droits. Cela ne nous mène pas où nous voulons aller. D'accord ? J'accepte, c'est-à-dire j'y vois un intérêt. Donc, l'abandon n'est pas l'acceptation. Je continue. L'acquiescement nous y mènerait presque. Toutefois, n'entrevoit-on pas qu'un tel acte implique encore une légère discussion intérieure, après laquelle la volonté, d'abord émue en face du saint vouloir de Dieu, s'apaise ensuite et se laisse faire. Vous voyez ? J'acquiesce. Il y a eu une sorte de lutte intérieure, bon, et puis finalement, après avoir discuté avec moi-même, je me laisse faire. L'abandon, c'est plus que de se laisser faire. Enfin, nous avions le mot de conformité. Il est très convenable. On peut dire qu'il est consacré, d'ailleurs, ce mot. Cependant, ce mot dit plus un état qu'un acte. Et l'état qu'il exprime semble préalablement supposer une sorte d'ajustement assez laborieux. On éveille en le prononçant l'idée d'un modèle qu'on a regardé, admiré et qu'on s'est ensuite efforcé d'imiter. Je regarde de l'extérieur la vie du Christ, je médite et je contemple ses actions, je contemple sa pauvreté, je contemple son obéissance à la volonté du Père, je contemple sa chasteté, je contemple le Christ dans ses différents états, et puis j'essaie peu à peu de me conformer à la vie du Christ, mais d'une façon un peu extérieure. Voilà ce que voudrait dire la conformité, comme on parle d'une copie conforme. Mais l'abandon ne consiste pas à être des copies conformes du Christ. La vie spirituelle ne fait pas de nous des copies conformes. Donc vous voyez, tous ces mots se ressemblent, bien entendu, mais c'est pour bien distinguer ce que c'est que l'abandon. Ni l'acceptation, ni l'acquiescement, ni la conformité, voilà. Et là même où la conformité se produit sans travail, dit Charles Guay, elle demeure néanmoins quelque chose d'assez froid. Aurions-nous mieux parlé en nous servant du mot d'indifférence, qui est aussi un mot très exact et très employé. C'est le grand mot des exercices de saint Ignace, je vais revenir là-dessus. Il exprime en effet, le mot d'indifférence, l'état d'une âme qui rend à la volonté de Dieu l'entier hommage dont nous voulons parler. C'est un mot négatif, l'indifférence. L'amour en use de l'indifférence, mais comme d'un marchepied. Voilà, vous voyez la différence entre l'indifférence et l'abandon. L'indifférence, c'est le marchepied de l'abandon. L'indifférence prépare l'abandon. Car rien n'est définitivement positif comme l'amour. Le mot propre ici, c'était donc l'abandon. Donc, au fond, voilà comment on peut définir l'abandon. c'est l'acte de charité par lequel on s'unit à la volonté de bon plaisir de Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Alors, notez bien cette définition, parce que c'est celle qui va nous suivre maintenant, et on circonscrit notre sujet. L'abandon, c'est l'acte de charité, l'acte d'amour, si vous voulez, par lequel on s'unit à la volonté de bon plaisir de Dieu. Et nous avons défini la volonté de bon plaisir de Dieu, celle qui s'exprime à travers tous les événements de notre vie. Elle s'exprime sans parole, donc elle ne nous est pas forcément toujours manifeste. Nous vivons une épreuve, nous vivons des turbulences, nous passons par l'épreuve de la maladie ou autre, des examens médicaux. Bon, voilà, nous ne savons pas où ça va nous mener. Et nous avons du mal à penser que c'est la volonté de Dieu. Mais dans la mesure où Dieu permet ces événements, c'est là où l'amour est premier dans l'abandon. Nous aimons ce que Dieu veut pour nous et ce qu'il permet pour nous, même si nous ne le comprenons pas avec notre raison. Et c'est bien là l'une des difficultés de l'abandon. C'est qu'il nous est difficile d'aimer quelque chose qui nous échappe par notre raison, qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas, et qui semble aller contre l'amour de Dieu, qui ne semble pas glorifier Dieu au départ. La maladie, la souffrance, telle ou telle épreuve, ça ne semble pas glorifier Dieu. Et on a beaucoup de peine à se jeter dans ce trou noir. On veut bien s'abandonner à Dieu quand tout va bien. Alors là, on ressemble aux chrétiens publicitaires, si vous voulez. D'accord, sourire aux lèvres, etc., avec sa petite pastille Jésus-Christ, voilà, et qu'on prend trois fois par jour, voyez, au rythme de l'Angélus, et on se dit « Ah, mon Père, tout va tellement bien. Voyez, je suis complètement abandonné. Attendez un peu. On va voir. On va voir ce qu'on va voir. On va voir ce que Dieu vous réserve. » Il met aussi à l'épreuve notre abandon. Voilà. Donc, voilà la définition de l'abandon, l'acte de charité par lequel on s'unit à la volonté de bon plaisir de Dieu. La volonté signifiée de Dieu n'est pas, en tant que telle, objet de l'abandon. On ne s'abandonne pas à ce que Dieu nous demande explicitement. Là, on est prié de le réaliser. Vous voyez ? Je reviendrai toujours à cette distinction. On ne s'abandonne pas au commandement de Dieu. On est prié de s'y soumettre. Et ça n'est pas un effort moins grand. Honorer son père et sa mère, c'est un commandement de Dieu. Quelquefois, ça n'est pas facile du tout. C'est loin d'être facile. Je ne sais pas, moi, honorer le jour du sabbat le dimanche, dans la société d'aujourd'hui, voyez, où on est en passe de voter le travail du dimanche, c'est certainement pas facile. Rendre un culte à Dieu le dimanche, voyez, ça n'est pas forcément toujours facile dans quelques pays qu'on se trouve. Pas forcément toujours facile. Et l'obéissance au commandement divin fait les martyrs quelquefois. Mais on n'est pas ici dans l'ordre de l'abandon en tant que tel. Alors, l'abandon va supposer deux aspects. Ah oui, alors avant ça, si j'ai un petit peu de temps, je crois que j'ai un petit peu de temps. Attendez, je vais trop vite. Voilà. L'abandon à Dieu va supposer deux conditions. L'indifférence, dont on a dit qu'elle était le marchepied de l'abandon, et puis, donc ça c'est l'aspect un peu négatif, et puis en même temps, la remise de nous-mêmes à la volonté divine. L'aspect plus positif. Alors, l'indifférence, C'est un terme qui est très utilisé dans la spiritualité de Saint Ignace, dans le cadre des exercices spirituels. Pour connaître la volonté de Dieu, pour se rendre entièrement disponible à son action, la volonté doit humaine, la volonté doit se rendre indifférente. Alors, je vais passer tout de suite, parce que je vous ai passé ce texte de Saint Ignace. Voilà. Décidément, ça va trop vite. L'exercice, le texte fondamental de Saint Ignace concernant l'abandon, au numéro 23 des exercices spirituels, qu'il faut lire ici entièrement. L'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu, notre Seigneur, et par là sauver son âme. Et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans sa poursuite, dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. D'où il suit que l'homme doit user de ces choses dans la mesure où elles l'aident pour sa fin, et qu'il doit s'en dégager dans la mesure où elles sont pour lui un obstacle à cette fin. Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre arbitre et qui ne lui est pas défendu, de telle manière que nous ne voulions pas, pour notre part, davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l'honneur que le déshonneur, une vie longue qu'une vie courte, et ainsi de suite pour tout le reste, mais que nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin par laquelle nous sommes créés. Voilà un texte qui est dans la doctrine spirituelle de l'abandon à la volonté de Dieu, est capital. On ne pouvait pas ne pas faire l'impasse sur ce texte. Ce texte de Saint Ignace de Loyola traite de l'indifférence, mais ce mot d'indifférence se trouve dans la troisième partie du texte. Et auparavant, Saint Ignace a bien rappelé la destinée de l'homme, ce pourquoi l'homme est fait. L'homme est créé pour, voilà, finalité de la vie humaine. Pour louer, respecter, servir Dieu notre Seigneur. Et par là, sauver son âme. Et par là, sauver son âme. Et non pas simplement servir Dieu notre Seigneur et sauver son âme. Par là, c'est-à-dire c'est en louant, en respectant, en servant Dieu que nous sauvons notre âme. Notre âme, c'est-à-dire toute notre personne ici, hein, dans le langage de Saint Ignace, c'est l'homme vivant, animé. Par son âme spirituelle. Et ce n'est pas simplement son âme détachée du corps. Hein. Pas de contresens là-dessus. Pas de contresens malheureux. Donc, Saint Ignace nous commence par nous enraciner à nouveau dans cette volonté. Est-ce que je veux ce que Dieu veut pour moi, c'est-à-dire mon salut? Et est-ce que cette cause finale de mon existence va éclairer l'ensemble de mon existence jusque dans les actes les plus singuliers. Les actes les plus singuliers. Vous êtes arrivé ici à 3 heures de l'après-midi pour suivre un cours sur l'abandon. Ça sert peut-être au salut de votre âme. Sinon vous seriez pas là. En tout ce que Dieu veut, dans sa providence. Alors, ça c'est important. Vous voyez, à chaque fois qu'on parle de l'abandon, on parle d'abord de la finalité. Et toutes les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. Quand Saint Paul dit toujours dans la première lettre aux Corinthiens, le monde, la vie ou la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Et c'est exactement ce que reprend Saint Ignace quelques siècles après. Tout est à vous, vous êtes au Christ, le Christ est à Dieu. Vous êtes ordonné. Et ce qui, le principe d'ordre de votre vie humaine, c'est la cause finale pour laquelle vous êtes créé. Et nous devrions, bien sûr, vivre, pas forcément obnubilé, voyez, mais ayant à l'esprit régulièrement le fait que ce que nous faisons, l'ensemble de nos actions, c'est pour cette gloire, pour la gloire de Dieu. L'une des difficultés, ça va être de ne pas s'approprier cette finalité. C'est là que se joue l'abandon. Je sais mieux que Dieu ce qu'il faut que je fasse pour sa gloire. Ça, c'est une forme d'appropriation de notre finalité. Et donc, c'est à partir de là que s'établit le juste rapport de l'homme avec les choses, avec toutes les autres choses, comme le dit Saint Ignace. L'homme doit user de ces choses, c'est-à-dire tout ce qui est créé, dans la mesure où elle l'aide pour sa fin. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ma manière d'user des choses, c'est vraiment pour la gloire de Dieu, ou pour ma satisfaction propre, pour la réalisation de moi-même? Là aussi, une manière de psychologiser énormément la théologie spirituelle et la vie spirituelle. Le christianisme comme autoréalisation de soi. Et puis quoi encore? Je me réalise, mon Père, je me réalise tellement dans ma vocation. Très bien. Est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ne se posait pas la question de savoir si elle se réalisait quand elle était sur son petit lit d'infirmerie en proie à la tuberculose. Elle n'était pas en train de dire à sœur Mère Marine Gonzague ou à sœur Agnès, je suis dans la pleine réalisation de moi-même. Je suis dans l'épanouissement de l'ego chrétien. Vous voyez ? Voilà. C'est un peu raide ce que je dis, mais enfin bon, c'est un peu nécessaire aussi. Voilà. Et donc, pour cela, dit le Saint Ignace, il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées. Il n'y a pas d'abandon s'il n'y a pas d'indifférence. Oui. Vous pourrez réfléchir déjà, ne serait-ce que là-dessus, vous pourrez méditer là-dessus. Indifférence par rapport aux choses créées. Détachement. C'est-à-dire, on pourrait le dire d'une autre façon, si vous voulez, en langage un peu théologie du corps, quantique des quantiques, une chasteté par rapport aux choses et par rapport aux personnes. Vous voyez, une indifférence, c'est-à-dire ne pas vivre dans le désir de posséder les choses. Vous voyez, d'en être comme le dirait Descartes, maître et possesseur. Ne pas devenir maître et possesseur. Et même, j'allais dire, ce qui est très subtil, ne pas devenir comme maître et possesseur de sa propre vie spirituelle. Là, on est dans le très subtil. Vous voyez ? On est dans le discernement spirituel. Il y a des personnes qui ne sont pas dans un rapport chaste par rapport à la vie spirituelle. Ça finit par se voir. Hein. Quand une personne, parce que à ce moment-là, la personne perd le sens de son devoir d'État, très 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 concret. Elle part dans la spiritualité, elle part dans les livres de spiritualité, dans une pratique religieuse complètement excessive, et elle en abandonne complètement son devoir d'État. C'est ça, le manque de chasteté spirituelle. C'est une manière d'être dans une relation à Dieu qui fait que c'est un peu étouffant, si vous voulez. Et donc c'est cela, en fait, l'indifférence. Il y a l'indifférence de la volonté à toutes les choses créées. en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre arbitre et qui ne lui est pas défendu. Cela veut dire que la volonté, ne voulant pas autre chose que la volonté de Dieu, se rend indifférente à tout le reste et surtout à son mouvement propre. La volonté humaine ne cherche pas à posséder son désir, même son désir de sainteté, mais laisse à Dieu le soin de lui dire, de lui donner la sainteté qu'il l'a choisie pour elle. Nous ne choisissons pas notre sainteté. Ça, c'est le plus grand abandon. Ne choisissons pas notre sainteté. N'idéalisons pas à ce point notre vie spirituelle. D'une façon très concrète, mon père, j'aimerais tellement prier d'une façon pure, mais je vois que j'ai des distractions dans la prière, ça me rend triste, etc. Mais je voudrais tellement avoir une prière pure. Voyez. Je me sens tellement bien quand ma prière est complètement pure. Bon. Il faut discerner, hein. Ça peut être bien sûr un souhait. Mais il peut y avoir ici, par exemple, l'expression, voyez, d'un désir de posséder une sorte de tentation de posséder son propre désir de sainteté. Les plus grands saints ont eu des distractions dans la prière. Sainte Thérèse d'Avila, qui en parle, c'est de quoi elle parle. Un jour, j'ai déjà raconté cela dans d'autres enseignements, mais un jour, rentrant dans la chapelle pour faire oraison, elle se met à genoux, elle commence son oraison, puis une personne vient, s'installe devant elle, se met à genoux, et là, elle voit les chaussures, les souliers, la personne qui était en face d'elle, puis elle voit les clous, alors elle se met à compter les clous. C'est une distraction, Sainte Thérèse d'Avila. Bon, tu me dis, puis alors elle compte. Puis elle regarde comment la chaussure est faite. Et puis le temps d'oraison se termine. Et donc, obéissante à la cloche, elle réalise qu'elle était complètement distraite, elle n'était pas du tout en Dieu. Et donc elle dit au Seigneur, mais Seigneur, pardonnez-moi de ne pas avoir été présente à vous-même. Et alors à ce moment-là, le Seigneur lui dit, Thérèse, tu n'étais pas au Seigneur, tu ne m'étais pas présente, mais moi, j'étais présente à Thérèse. J'étais présent à Thérèse. Voilà. Et donc là, Sainte Thérèse d'Avila parlera beaucoup des distractions en disant que nous pouvons avoir des distractions dans la prière, bon, si Dieu le permet. Mais ces distractions, si vous voulez, il faut apprendre à les vivre dans la prière. Elle nous laisse bien souvent dans l'humilité, parce que notre imagination part dans tout ce qui est à faire, les courses à faire, mesdames, les choses comme ça, etc. Telle ou telle image qui nous agace, qui est... voilà. Et pourtant, voilà, Dieu permet cela, et il faut peu à peu, prenant conscience des images qui nous viennent pendant la prière, ou de ce qui est de toutes les distractions, en demandant humblement pardon à Dieu, et en revenant peu à peu vers lui. On ne maîtrise pas nos distractions dans la prière en se braquant contre elles. Ça n'est jamais avec violence qu'on peut lutter contre les distractions. Mais c'est en les offrant dans notre propre prière, humblement. Et elles sont l'occasion à ce moment-là de purifier notre demande, de purifier nos désirs, d'être beaucoup plus réaliste sur ce que nous sommes devant Dieu. Et de ne pas faire d'angélisme. Voilà. Donc, cette indifférence qui est si capitale parce qu'elle va purifier notre volonté propre. Elle va purifier notre amour propre. Elle va purifier notre relation aux choses, aux êtres que nous voudrions posséder. Notre relation à nos désirs, même les plus louables soient-ils, comme le désir de sainteté, pour le purifier. Nous, on retrouve bien sûr cette indifférence clairement exprimée dans la prière de Charles de Foucault. « Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. » Ensuite, Alors il faut bien comprendre que cette indifférence de la volonté, ça n'est ni l'insensibilité du caractère lymphatique, ni l'apathie, voilà, bof, finalement, ça ou autre chose, voilà. Et c'est le caractère un peu lymphatique qui est celui, dans un des ouvrages de Bernanos, dans un des romans de Bernanos, Monsieur Wynne. Hein, Monsieur Wynne, c'est monsieur ni oui ni non. C'est monsieur qui regarde les choses se passer, qui a un regard purement froid et scientifique sur les choses, mais qui, dans cette froideur et ce caractère lymphatique, eh bien, entraîne tout dans son trou noir. Voyez. L'indifférence n'est pas le manque d'amour. L'indifférence de la volonté n'est pas le manque d'amour, elle est précisément le détachement par rapport aux choses créées. L'indifférence n'est pas non plus le dédain stoïcien, mais c'est une attitude énergique, en fait. L'indifférence de la volonté, du point de vue spirituel, c'est une attitude énergique. La volonté est maîtresse d'elle-même pour pouvoir se concentrer sur la volonté de Dieu. L'âme indifférente au bien de ce monde devient complètement souple à la volonté de Dieu. Souple à la volonté de Dieu. Elle est comparable, comme le dit saint François de Sales, qui a toujours des très belles images, elle est comparable à ce moment-là à une liqueur qui n'a plus de forme par soi-même. Sa forme, c'est le vase qui la contient. Mettez-la dans 10 vases différents, elle y prend 10 formes différentes et elle les prend dès qu'elle y est versée. Chaque volonté divine, quelle qu'elle soit, la trouve libre et s'empare d'elle comme d'un terrain qui n'est à personne. Tout lui semble également bon, rien n'être rien, être beaucoup, être peu, commander, obéir à l'un ou à l'autre, être humilié, être oublié, manquer ou être pourvu, avoir de longs loisirs ou être chargé de travail, être seul ou en compagnie, et en telle compagnie qu'on veut, voir un long chemin devant soi ou ne voir de la route que ce qu'il faut pour poser le pied, être consolé ou être sèche, être tenté dans cette sécheresse, être bien portante ou maladive et forcée de languir des années, être impuissante et devenir une charge pour la communauté qu'on était venu servir, vivre longtemps, mourir bientôt, mourir sur l'heure, tout lui plaît, elle veut tout parce qu'elle ne veut rien, et elle ne veut rien parce qu'elle veut tout. Je suis allé un petit peu trop vite. Bon, je vous donnerai ce texte par écrit la semaine prochaine. C'est un texte de saint François de Sales qui montre cette indifférence de la volonté. Elle veut tout parce qu'elle ne veut rien, elle ne veut rien parce qu'elle veut tout. Mais quand elle veut tout, elle veut ce que Dieu veut dans les circonstances. Elle accueille les circonstances comme venant de Dieu et elle ne s'approprie pas les circonstances pour, de sa volonté propre, décider ce qui est bien pour elle. En matière de sainteté. Et elle accueille dans les événements la volonté de Dieu. Alors, ce que je pose ici comme fondement, j'y reviendrai peu à peu. Et on verra un peu plus tard que notre volonté n'est pas naturellement unie à la volonté de Dieu. Elle reste captive de la blessure du péché originel qu'on appelle la triple concupiscence, et j'en parlerai dans le combat spirituel. Le deuxième aspect de l'abandon, c'est la remise de nous-mêmes. Vous voyez, indifférence par rapport aux choses créées et remise de nous-mêmes à la volonté de Dieu. C'est-à-dire la disposition à recevoir tout ce que Dieu voudra. Une disposition à recevoir tout ce que Dieu voudra avant les événements. Vous devez faire un voyage et en vue d'un projet que qui vous tient à cœur, vous êtes un projet professionnel ou bien un projet ecclésial ou bien voilà, vous vous engagez dans telle ou telle forme d'apostolat qui vous convient bien, par exemple un apostolat auprès des plus pauvres, un apostolat auprès des gens seuls, ou alors une activité auprès des enfants, des personnes handicapées, etc. Ça, vous le désirez, vous en avez discerné que c'est vraiment la volonté de Dieu et que ça va vous permettre de vivre votre vie chrétienne et développer en vous la charité. Bon, très bien. Mais vous ne savez pas exactement comment ça va se passer. Vous ne savez pas, d'une semaine sur l'autre ou d'un mois à l'autre, ce qu'on peut vous demander très concrètement, etc. Et donc, la remise de sa volonté, la remise de nous-mêmes à la volonté de Dieu, signifie d'abord cette disposition à recevoir tout ce que Dieu voudra. Dans le ministère qui est le vôtre, dans l'État qui est le vôtre, dans votre devoir d'État, dans votre profession, dans votre vie de mère de famille. Vous ne savez pas, par exemple, quels sont les enfants que Dieu vous donnera, vous confiera d'ailleurs. Un garçon, une fille, tel caractère, tel tempérament, et ça se voit peu à peu. Vous voyez. Au fur et à mesure des années où l'enfant grandit, on se dit, tiens, j'aurais jamais pensé. Vous voyez. Comme femme d'un roman de je ne sais plus qui disait, oh là là, qui pourrait bien savoir à quel point c'est difficile d'éduquer des filles. Ayant eu 3 ou 4 filles, en disant, on pense qu'elles vont être, qu'on va les comprendre, etc., parce que nous sommes aussi des femmes, et elles ne font que se chamailler entre elles. Voilà. Bon, la vie nous donne beaucoup d'occasions et de circonstances que nous ne choisissons pas. Nous ne choisissons pas le tempérament, le caractère de nos enfants. Nous sommes surpris quelquefois par les études qu'ils souhaitent faire, par les engagements qu'ils prennent, etc. Et c'est en cela qu'il faut nous disposer à recevoir tout ce que Dieu voudra. Et enfin, quand les événements se présentent, les vivre dans l'acquiescement de ces événements, précisément dans l'abandon. Voilà, ça ce sont les deux aspects de la volonté. On pourrait dire que ici, j'ai parlé de la dimension passive de la volonté, voyez, qui s'abandonne à la volonté divine. Maintenant, il y a autre chose. Il n'y a pas d'abandon sans une certaine activité de notre part, et cette activité, c'est l'exercice de la prudence. Ça, c'est le côté actif. L'école de l'abandon n'est pas l'école de l'imprudence, de l'imprévoyance et de l'insouciance. L'abandon à Dieu n'est ni l'imprévoyance ni l'insouciance. Et le fait est que ceux qui ont l'expérience de fonctions et de charges dont ils ont la responsabilité, vous voyez, et de lourdes quelquefois d'une communauté entière, d'un diocèse, par exemple pour un évêque, etc., ils le savent bien que l'abandon à Dieu n'est pas l'imprévoyance et n'est pas l'insouciance. Et en général, ces gens-là sont souvent agacés par le discours de ceux qui savent très bien abandonner aux autres les difficultés de l'action. « Oh, mais Monseigneur, abandonnez-vous, des vocations, il y en aura toujours. » Et quand vous voyez les difficultés des diocèses et du nombre de prêtres, l'évêque, il ne se satisfait pas d'une telle assertion, d'une telle affirmation. Même si c'est avec la meilleure volonté du monde, vous savez. Il y a quelquefois des mots que l'on dit avec une très bonne volonté, vous voyez, mais qui sont souvent d'une naïveté cruelle. Oh, ben mon père, abandonnez-vous, Saint-Louis d'Antin, ça marche comme sur des roulettes. Bien sûr, venez voir les coulisses. Oh, des confesseurs, ben vous en aurez, mon père. Bien sûr. Oh, des conférences à Bernanos, on a toujours eu. Voilà, une forme voilà, c'est pas l'insouciance, l'abandon. S'abandonner, c'est pas simplement dire bah, « Dieu est là, Dieu pourvoira. » Voilà. Il y a une vraie prudence de l'homme dans l'abandon. Vous voyez ? C'est vrai qu'il serait bon de se demander comment on vit concrètement l'abandon dans les activités qui sont les nôtres, quand elles requièrent de notre part la réflexion et l'action des moyens à prendre, à mettre en ordre pour atteindre la fin que nous désirons. La prudence est une vertu cardinale. Je vous donne ici la définition du catéchisme de l'Église catholique. La prudence est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. Quel est mon véritable bien ? Quand je suis, j'ai telle activité professionnelle, voilà, quel est le bien que je recherche ? Si je suis chef d'entreprise, quel est le bien pour mon entreprise ? Est-ce que c'est de fabriquer de l'argent ou est-ce que c'est le bien des personnes dans cette entreprise ? Fabriquer des richesses, c'est nécessaire à une entreprise. Voilà. Mais il y a aussi la vie des hommes. Qu'est-ce qui est premier ? Quand je suis mère de famille, quelle est la finalité de l'exercice de ma vie de mère de famille ou de père de famille ? Quand je suis responsable d'une communauté, quelle est la finalité que je cherche ? Et quels sont les meilleurs moyens que je vais mettre en œuvre ? Quels sont les moyens que je vais mettre en œuvre au fur et à mesure des années pour atteindre cette finalité ? Quelle est la finalité d'une paroisse ? Quelle est la finalité d'une paroisse comme Saint-Louis d'Antin ? Celui qui en a la charge doit le savoir, doit réfléchir. Celui qui a la charge dans votre paroisse, dans vos paroisses respectives, quelle est la finalité d'une paroisse ? Est-ce que le curé, celui qui a la charge de la paroisse, voyez, sait quel est le bien d'une paroisse ? C'est ce qui va ordonner tous les moyens, toutes les actions qu'il va mettre en œuvre dans cette paroisse. Et il n'y a pas une paroisse qui se ressemble, qui ressemble à une autre. Une paroisse du 18e et de Paris Nord, 18e ou 19e, ne ressemble pas du tout à une paroisse du 16e Sud. C'est pas le même type de personne. C'est pas le même type d'activité. C'est pas la même population. C'est pas les mêmes coutumes. C'est pas la même église. Vous voyez ? Et même s'il y a bien sûr une finalité générale qui est la sanctification des fidèles, le gouvernement, la sanctification, l'enseignement, ça ne se passe pas du tout de la même façon quand on est vicaire ou curé dans une paroisse du 19e arrondissement ou du 16e. Vous voyez ? Donc, tout ça, c'est de l'ordre de la prudence. Et ça n'empêche pas l'abandon. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'abandon, c'est le bon plaisir de Dieu dans les circonstances dans lesquelles il nous met, mais il nous met avec toute notre liberté. Il attend de nous notre coopération. C'est là qu'est notre activité. Voyez, Dieu veut bien nous aider, mais à la condition que nous fassions ce qui dépend de nous. Aide-toi, le ciel t'aidera. Faire autrement, c'est tenter Dieu et renverser l'ordre qu'il a établi. Notre Seigneur prêche à chacun de nous la confiance. Il n'autorise à personne l'imprévoyance et la paresse. Vous voyez, il y a deux règles dans la doctrine de l'abandon. Croire que Dieu a soin de nous, mais aussi agir et veiller. C'est ce que dit Bossuet. Voilà quel est l'abandon du chrétien selon la doctrine apostolique. Et l'on voit qu'il présuppose deux fondements, l'un de croire que Dieu a soin de nous, et l'autre qu'il n'en faut pas moins agir et veiller. Autrement, ce serait tenter Dieu. Et c'est d'une certaine manière ce que dit aussi Saint Ignace de Loyola par une formule beaucoup plus ramassée. Il faut prier comme si tout dépendait de Dieu, agir comme si tout dépendait de nous. Prier comme, si vous voulez, car tout dépend de Dieu, agir comme si tout dépendait de nous. Alors, il y a bien sûr, dans les événements qui nous arrivent, il y a ceux qui ne dépendent de nous en aucune manière, les calamités de toutes sortes, les épidémies, les tempêtes, les persécutions, la maladie ou telle chose. Ça, c'est des événements qui ne dépendent de nous en aucune manière. Ça ne veut pas dire que Dieu ne les permet pas. Il les permet. Il y a ceux qui demandent notre prudence. Par exemple, quand le Seigneur dit « veillez, veillez », c'est-à-dire « agissez ». Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Ça dépend de nous. Et voyons ce qui s'oppose à la prudence. Vous voyez, ce qui s'oppose à la prudence, c'est la négligence, la dissipation, les attaches de toutes sortes et toutes les causes volontaires qui s'opposent à la grâce. L'abandon ne dispense donc pas de la prudence, mais il proscrit l'inquiétude. L'abandon ne dispense pas de la prudence, mais il proscrit l'inquiétude. L'inquiétude, c'est la sollicitude exagérée, la préoccupation, l'agitation. Tout cela, dit saint François de Sales, l'inquiétude provient de l'amour-propre et de l'affection que nous avons pour nous-mêmes. Il peut y avoir de l'inquiétude dissimulée, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on veut posséder son propre désir de sainteté. Alors ça, on est inquiet. Vous voyez ? Quand on abandonne même son désir de sainteté et qu'on laisse à Dieu le soin de nous sanctifier par les moyens qu'il veut, alors on commence déjà à être moins inquiet. Et vous réfléchirez à cette petite assertion. Passivité et activité, vous voyez, que j'ai traité aujourd'hui, on pourrait rapprocher ce thème de la distinction que l'on fait habituellement entre la foi et les œuvres. Et à ce propos, je terminerai par une petite histoire, une petite anecdote. On peut reprendre un dialogue entre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et puis une novice du Carmel de Lisieux. Je retire ça d'un livre qui a été écrit par sa sœur Agnès. Une novice du Carmel, ayant lu ce passage de l'Ecclésiastique, « La miséricorde fera à chacun sa place selon le mérite de ses œuvres », donc l'activité, vient questionner sa jeune maîtresse. « Pourquoi, demande-t-elle à Sainte Thérèse, pourquoi est-il dit « selon le mérite de ses œuvres » puisque Saint Paul parle d'être justifié gratuitement par la grâce ?» Ce qui supposerait une mauvaise conception de l'abandon, la gratuité de la grâce. Alors, Sainte Thérèse de Lisieux expliqua énergiquement que si l'espérance poussée jusqu'aux dernières limites est composée d'abandon et de confiance en Dieu, son aliment n'est autre chose que le sacrifice. Et elle développa ainsi sa pensée : il faut faire tout ce qui est en soi, donner sans compter, se renoncer constamment, en un mot, prouver son amour par toutes les bonnes œuvres en notre pouvoir. Mais, à la vérité, comme tout cela est peu de choses, il est urgent de mettre sa confiance en celui qui seul sanctifie les œuvres et de s'avouer des serviteurs inutiles, espérant que le bon Dieu nous donnera par grâce tout ce que nous désirons. Nous devons agir comme si tout dépendait de nous, agir et par nos œuvres et par nos actes montrer à Dieu notre bonne volonté, prouver notre amour dans les circonstances dans lesquelles il nous place, mais sachant que nous sommes des serviteurs inutiles, c'est-à-dire que nous ne ferons jamais ce que la grâce peut faire, c'est-à-dire nous sanctifier. Or ça, c'est précisément le but de notre vie, comme le dit Saint Ignace de Loyola. Voilà. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.